Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 21 novembre 1991.
Je ne reviens pas sur ce que nous avons vu la dernière fois, puisqu'il n'y a pas de questions. Ça prouve que vous avez tout compris. Je vous fais confiance. Alors nous allons entrer dans l'éthique religieuse en comprenant que les traditions religieuses, presque toutes, montrent le Dieu créateur. Et c'est en réfléchissant sur ces traditions religieuses que le philosophe se pose la question. Est-ce que ces traditions religieuses sont des mythes? Puisqu'on l'a dit, on a interprété ça comme ça, d'ailleurs part. Ou au contraire, ces traditions religieuses ont une vraie valeur symbolique. Un symbolisme plus ou moins purifié. Mais je ne peux vraiment analyser philosophiquement l'éthique religieuse que si j'ai déjà découvert par ma philosophie première l'existence d'un être premier qui est mon créateur. Mais je distingue bien les deux aspects, faut quand même l'être très net. Si je ne m'appuie que sur les traditions religieuses, je peux avoir une certaine éthique religieuse descriptive qui montre que de fait, les hommes ont adoré. Je prends pratiquement la tradition judéo-chrétienne, le premier geste qui m'est montré après le péché. C'est le geste de Caïn et d'Abel. Il voit que ce geste d'offrir à Dieu les prémices du troupeau, les prémices de la culture, sont des gestes qui reconnaissent la dépendance à l'égard de Dieu. Je peux étudier successivement, à travers toute la Bible, comment la religion s'est précisée et qu'au cœur de toute cette attitude religieuse, il y a un acte qui reconnaît la dépendance totale à l'égard de Dieu. Et puis que les alliances sont venues après. Il y a d'abord quelque chose de spontané, indépendamment de toute loi. Et du reste, très intéressant, ce passage d'une attitude religieuse spontanée à une attitude religieuse codifiée. Les avantages et les inconvénients. Mais si je n'ai pas de métaphysique, je ne peux faire que l'histoire des religions. Ça a été fait, l'histoire des religions. Ça reste un degré de connaissance historique comme certitude. Et ça ne me regarde pas directement. Parce que ce qui s'est passé du temps de Caïn, c'est un peu lointain. Du temps d'Abel, c'est un peu lointain. Même du temps d'Abraham, c'est quand même assez lointain. Puis c'est dans un contexte tellement différent que l'histoire des religions ne me donne pas une philosophie de la religion. Ça fait partie d'informations. C'est très important, mais c'est pas là-dessus que repose la philosophie. La philosophie repose sur l'expérience actuelle de l'homme. Mon expérience. Et je purifie cette expérience pour que né dans tel contexte. Pour cela, la philosophie première est absolument indispensable. Vous voyez, c'est ça qui est particulier au statut philosophique de l'éthique religieuse. C'est qu'elle est en dépendance directe de la philosophie première et de la théologie naturelle. L'expérience que nous allons voir de l'adoration ne peut servir de point de départ à une éthique religieuse que si déjà mon intelligence s'est purifiée dans sa recherche de ce qu'il y a de premier, dans la recherche du Créateur. Si je n'ai aucune connaissance philosophique du Créateur, puisque la foi ne fonde pas une philosophie, mais la foi maintient l'interrogation philosophique. Si je suis vraiment croyant et que je sais dans ma foi que mon intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu et peut atteindre le mystère de la création, je fais tout ce que je peux. J'en suis responsable. Je fais tout ce que je peux pour découvrir philosophiquement l'existence de l'être premier et découvrir le problème de la création. Et quand je l'ai découvert en philosophie première et en théologie naturelle, je peux à ce moment-là réfléchir d'une manière beaucoup plus profonde, ce que nous allons faire ensemble, sur l'acte d'adoration. Premier commandement, un seul Dieu tu adoreras. Petite indication, c'est un petit signe, pas plus, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. C'est la tradition. Mais c'est un petit signe. Je n'ai pas le droit de mépriser les signes et mépriser ce que la tradition me donne. Or la tradition me montre le geste de Cain et d'Abel et me rappelle le premier commandement. Je me pose donc la question, est-ce que je peux établir une éthique religieuse sur l'expérience de l'adoration? Eh bien, il faut bien situer le problème. Est-ce que je peux le faire? Comme je me suis posé la question, est-ce que je peux établir une éthique humaine et fondamentalement humaine sur l'expérience de l'amour d'amitié? Et nous avons vu, en analysant l'amour d'amitié, que tous les moments de l'éthique humaine sont présents dans l'expérience de l'amour d'amitié. Et donc, ce qui permet de conclure que l'expérience de l'amour d'amitié est bien le fondement et la lumière qui m'aide à entrer dans l'éthique humaine. Je me pose la même question par rapport à l'adoration. Donc, ce que nous faisons maintenant, vous voyez, ce serait le premier chapitre de l'éthique religieuse. L'adoration est-elle l'expérience fondamentale qui permet d'analyser au plan philosophique une éthique religieuse et qui m'ouvre tout un nouveau secteur de recherche philosophique, cette éthique religieuse. Évidemment, l'homme qui n'a jamais fait l'expérience de l'adoration ne s'occupe pas d'éthique religieuse. C'est un fait. Il s'occupe de planter des choux et d'élever des canards. Voilà ce qu'il s'occupe. Et de faire que ces choux produisent le plus d'argent possible et que les canards également soient bien vendus. sa finalité reste un bien-être humain, temporel. C'est tout. Et qu'il faut secouer très fort cet homme-là pour qu'il puisse découvrir qu'il y a en lui quelque chose de beaucoup plus profond. Si on peut le secouer, si on ne peut pas le secouer, on demande à Dieu de le secouer. C'est ce qu'on doit faire si on aime ses frères. C'est insupportable de voir des gens qui ne dorment pas. C'est insupportable de voir des gens qui limitent leur horizon humain à planter des choux et élever des canards. C'est insupportable. Si j'ai tant soit peu le sens de la dignité de la grandeur de la personne. Donc, je fais tout ce que je peux pour le secouer. Et si je ne peux pas, parce que quand même, je ne peux pas faire ça à l'égard de Mitterrand, par exemple. Difficile de le secouer, il y a la police autour. Alors, on demande à Dieu de le secouer. Et ça, je crois qu'on doit le faire. C'est la prière qu'on fait pour le chef d'État. Quand ils ont besoin d'être secoués. Parce qu'on est dépendant d'eux. On fait partie d'un pays auquel on est lié avec eux. On ne peut rien. Et qu'ils soient au moins des êtres humains, dignes comme êtres humains. Je prends Mitterrand, je prends tous ceux que nous pouvons connaître et qui pensent qu'à une seule chose, la gloire humaine ou l'argent. Ou les deux ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'acte d'adoration? L'expérience que vous avez de l'acte d'adoration. Mais c'est évident que c'est un milieu privilégié ici pour faire une éthique religieuse. Ce serait plus difficile en Sorbonne. Mais on devrait le faire. Un pays devrait avoir ce souci de l'éducation religieuse. Autrement, il va à sa chute. Non, on verra ça au terme. Comment l'éthique religieuse devient gardienne de l'éthique humaine, tout court. Alors là, on relève le défi de Marx, la religion opium du peuple. On dit l'inverse, la religion éveil du peuple. Éveil éthique du peuple, qui permet à l'homme de garder sa dignité. Je crois, sans éthique religieuse, c'est très très difficile pour un homme de garder sa dignité. Il y aura des idées. Il y aura peut-être une certaine dignité matérielle qui se sera forgée. L'éthique stoïcienne était religieuse. Elle implique un aspect religieux. Au moins dans stoïcisme ultime et dernier. Alors, l'acte d'adoration, c'est l'acte par lequel, consciemment, librement, je reconnais ma dépendance radicale à l'égard de celui qui est mon créateur. Celui qui a créé mon âme spirituelle. Et quand je dis il a créé, je dois préciser qu'il crée actuellement mon âme spirituelle, ce qui est en moi source de vie, source d'être. Parce que il crée actuellement mon âme spirituelle qui m'est donnée gratuitement. Je dois reconnaître cela et le reconnaître. humain correct. C'est une incorrection terrible que de reconnaître qu'on a une âme spirituelle qui nous a été donnée gratuitement et qu'on ne remercie pas le donateur et qu'on n'a aucun souci de savoir qui il est. C'est, j'allais dire, une insouciance impardonnable. Puisque c'est le don majeur de ma vie. C'est cela qui donne à toute ma vie humaine sa dignité la plus profonde, qui fait que ma vie humaine a quelque chose d'unique, que ma vie humaine a vraiment une grandeur que celle, elle peut posséder. Je reconnais ce don et je remercie celui qui me l'a donné. Ne pas le remercier, c'est la gratitude. Ce n'est pas humain. Ne pas le remercier pour être soi-disant plus tranquille, pour avoir davantage ma petite vie en main et la mener comme je veux, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Parler de péché, c'est quelque chose qui, loin de m'ennoblir et de permettre d'être authentique et vrai, c'est quelque chose qui me referme sur moi-même et qui m'empêche d'aller plus loin. Et je suis responsable de cela. Dans la mesure où j'ai pris connaissance et conscience qu'il y a un créateur et que ce créateur m'a créé, me crée. Je suis responsable d'accepter ou de ne pas accepter cet acte qui consiste à remonter à la source de mon être, non pas d'une manière spéculative, mais d'une manière pratique. Là, je peux me rappeler très bien ce que dit Peggy. D'une manière simple et qui montre que mon désenvoleur est très peu en montage. Et l'adoration est une manière pratique de remonter à la source. La source de ma vie, de mon être. Vous voyez, je crois beaucoup insister sur cette négligence, cette insouciance, cet acte négatif. Je ne veux pas le savoir. Et qui est une attitude commune aujourd'hui. Chez la plupart des gens, ils se sont endormis. Je fais de la philosophie pour moi, actuellement. Donc je dois reconnaître que c'est difficile aujourd'hui de faire une éthique religieuse à cause de cet engourdissement. Pour des tas de raisons. Cette laïcisation. Mais dès que j'ai compris l'existence d'un être premier, je dois aller jusqu'au bout des exigences de cela. Vous voyez, la philosophie n'est pas une apologétique. La philosophie n'est pas une adaptation. Non. L'adaptation vient après. La philosophie est une recherche de vérité, et de vérité pratique, et de vérité spéculative. Et au point de vue pratique, je peux dire, si j'ai découvert l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu et qui est notre Créateur, que l'acte premier de vérité de tout mon être, c'est de reconnaître cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Ça, il faut en essayer de remonter à la source. Et on doit tout faire pour cela. Et là, le philosophe touche. Et c'est la première fois en philosophie que je comprends ce qu'il peut y avoir de juste dans l'impératif catégorie de Kant. L'homme n'a pas le droit d'éviter cette réalité. Il n'a pas le droit de dire « je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter ». Il faut. C'est, je crois, à cause de ça qu'aujourd'hui, on a tant de peine à accepter cela. Parce qu'au fond, on doit tout de suite, en éthique religieuse, accepter quelque chose qui s'impose à moi. Vous voyez, l'amour d'amitié ne s'impose pas à moi. Je suis libre de choisir tel ami ou pas tel ami. Complètement libre. Il ne m'en revient pas. Il a des réactions impossibles. Impossible de vivre avec lui. Il est un mauvais coucheur. J'aime mieux pas. Ça durera une journée. On est libre de choisir son ami. On est même libre de dire c'est très beau l'amitié, mais c'est pas pour moi pour le moment. Intempore et opportuno, hein. C'est pas pour moi pour le moment. On me l'a conseillé, mais je suis libre. Tandis que quand il s'agit de l'éthique religieuse, je suis tout de suite en face d'un acte qui s'impose à moi comme une nécessité. Je peux refuser, mais la détermination de cet acte s'impose à moi. Donc je ne suis pas libre dans de contourner, de façonner à ma manière, l'acte d'adoration. Ça s'impose à moi, la dépendance à l'égard de l'être premier. Je reste libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais la structure de cet acte s'impose à moi. Parce que cette dépendance à l'égard de l'être premier est une dépendance objective. Elle n'est pas du tout subjective, elle est au niveau de l'être. Elle est au niveau de ma vie, dans ce qu'elle a de fondamental, et ma vie de l'esprit. Je dois donc, là, philosophiquement, répondre à toutes les obstacles. C'est pas d'apologétique, c'est simplement pour la vérité. À tous les obstacles que je connais qui empêchent les hommes d'aujourd'hui d'adorer. Obstacle, la plupart du temps, l'ignorance. Donc, mon devoir est d'éviter cette ignorance. Pour moi et pour ceux qui sont proches de moi. Vous voyez, ce serait pour nous, hommes religieux, une nécessité de faire de la métaphysique, de la philosophie première. Intelligence naturelle. Si je peux le faire, si je suis capable de le faire, parce que je considère que demeurer dans l'ignorance à l'égard de mon créateur, de mon père, dans ce qu'il a de plus radical et de plus fondamental, c'est une terrible erreur. Il y a d'immenses conséquences. Je n'ai donc pas le droit de maintenir en moi cette ignorance. Et je n'ai pas le droit comme ça montre qu'on est marqué par la laïcité. Mais qu'il y a en nous quelque chose qui n'est plus tout à fait juste. Après, je devrais me poser la question, comment puis-je faire ? Je pourrais très bien, dans l'ordre du comment, reconnaître que la seule manière d'agir, c'est l'exemple. Dans des quantités de cas, c'est la seule chose. Parce que si on commence par les religions, à quelqu'un qui a décidé dans sa vie de rester dans une attitude soi-disant athée, vous jetez de l'huile sur le feu. Alors c'est pire. Faut pas être indiscret. Vous respectez la conscience des autres. Et ça, c'est l'éthique fondamentale qui me le dit. Et l'éthique religieuse le met au carré. Et tout de suite. Parce que si Dieu existe et que je suis dépendant de Dieu, et que je vois le respect de Dieu à l'égard de sa créature spirituelle, qui permet à la créature spirituelle de l'ignorer volontairement, Dieu permet cela. Dieu ne concourt pas à ça, mais Dieu permet cela. Et donc, il faut que j'ai une très grande discrétion. Et ça, c'est capital. Pas arriver avec des pieds d'éléphant, vous voyez, dans le salon de l'athée, dans le petit jardin qui s'est construit. Surtout pas. Il faut créer une amitié. En me disant qu'en créant une amitié, je le mets sous une bonne orientation. Un athée qui a comme ami un chrétien, un catholique, pratiquant, intelligent, est déjà à moitié sauvé. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Le vieil adage. Et ça, c'est vrai. C'est très étonnant, ça. Ça montre l'ouverture que réalise l'amour d'amitié. Mais si je peux, j'essaie de l'aider. Supprimer en lui cette cécité, cet aveuglement. Donc, la première condition, au point de vue philosophique, c'est ça, prendre conscience de cette dépendance. Deuxièmement, prendre conscience que cette dépendance est une chose bonne. Et je suis obligé, aujourd'hui, en face de toutes ces idéologies athées qui ont formé et qui forment le climat de la laïcisation, de relever les erreurs de ces idéologies athées à l'égard de la reconnaissance de cette dépendance à l'égard de Dieu. Je suis obligé de ça. Autrement, je ne suis pas philosophe. Mais je ferai comme tout simplement comme la brave personne du coin qui va à la messe tous les jours et qui voit cet homme ou cette femme qui se dit athée. Alors elle dit, mais c'est pas bien, vous savez, c'est pas bien de faire ça. Mais c'est tout, elle affirme ça. Et l'autre dira, mais vous êtes dans un esclavage. Voyez pas que en reconnaissant l'existence de Dieu, vous mettez dans un état de soumission qui vous diminue. Alors l'autre dira, non, pas du tout, ça me fait du bien. Oui, ça vous fait du bien, ça vous endort. Alors elle parlera uniquement de sa subjectivité et ça n'avancera pas, ça réconfortera au contraire l'autre. Paraît-il qu'il y a eu l'autre jour, Jésus, ça, hier, je ne savais pas qu'il y avait eu une session. C'était fait, je crois, à Lyon ou à Châlons, pas très loin d'ici, sur Martre-Robin. a invité un ecclésiastique, théologien, je ne dis pas le nom. Et je crois qu'ils étaient deux. Et ils ont été entièrement, comme on dit aujourd'hui, piégés. Parce qu'au fond, ces psychanalyses voulaient expliquer le cas de Marthe uniquement au point de vue psychanalytique. Et c'est ce qui est ressenti, paraît-il, dans le journal du lieu. On a parlé de cette session, on a pris au sérieux le cas de Marthe.
Philosophiquement, il faut se rappeler et puis il faut découvrir.
libération, théologie de la libération. La théologie de la libération s'enracine dans l'adoration. Je peux me libérer que par l'adoration. Pourquoi ? Parce que par l'adoration, je coopère avec celui qui est à la source.
See.
aspect subjectif. On le reconnaît. Il y a tout un conditionnement qui permet à cet amour de se réaliser. Je ne suis pas entièrement maître de vivre de cet amour, puisque il est de fait plus ou moins explicite, plus ou moins intense, même pour moi, selon les jours. Je reconnais cela, mais ça fait partie de l'amour, exactement comme pour l'amour d'amitié. Je n'ai pas toujours la même physionomie et la même attitude dans l'amour d'amitié vis-à-vis de mon ami, même si mon ami n'a pas changé. Il y a des jours où, ayant mal dormi à côté de mon ami, je m'endors. Drôle d'amitié. Je fais aucune attention à ce qu'il dit, parce que j'ai une peine énorme de me maintenir réveillé. On connaît bien cette attitude-là. Alors, c'est normal de retrouver ça. Ça, c'est pas ça qui supprime l'objectivité de cet amour. C'est tout simplement me montrer que je suis un être humain qui a beaucoup de peine d'aimer. Et que l'amour spirituel réclame toujours un effort. Parce qu'il est volontaire. Je veux adorer. Et j'ai conscience que je veux adorer. Et cette conscience, cette volonté d'adorer, me permet de situer tout de suite cet acte d'adoration dans une perspective éthique, morale. Et en même temps de souligner que cette attitude morale pour cet acte d'adoration, c'est quelque chose de très grand. Puisque ça me relie à celui qui est ma source. Mais je reconnais très bien que pour certaines personnes, cette expérience n'existe pas. Et je dis que cette expérience n'existe pas parce qu'au fond, elles n'ont jamais voulu l'avoir. Elles n'ont rien fait pour l'avoir. Elles se sont laissées abrutir par le milieu dans lequel elles étaient. Elles sont évitées. Et on peut montrer là des exemples très curieux. J'ai des enfants qui ont beaucoup plus besoin d'adorer que des grandes personnes. Il y a un appel mystérieux. Faire quelque chose qu'ils sentent. Alors, je crois que là, il y a un moment très important, vous voyez, d'analyser la naissance d'un nouvel amour, qui est l'amour de la partie vers le tout, comme dit saint Thomas, de la pauvre petite créature spirituelle. Et plutôt que de parler du tout, saint Thomas pouvait en parler, et nous c'est un petit peu dangereux. Parce que ça tombe tout de suite dans une espèce de panthéisme. Dieu n'est pas un tout, tu es une personne. Et cet amour personnel porte sur une personne, qui est le Créateur, et qui est infini. Qui est infini, qui me porte, qui m'enveloppe, et qui est source pour moi. Et j'essaie de comprendre cet amour spirituel qui me permet de rejoindre ma source en quelque chose d'extraordinairement vital en moi et de profond. C'est ce qu'il y a de plus radical et de plus profond. Et il faut du temps avant de le comprendre parfaitement. Je crois qu'il faut bien reconnaître que cet amour premier dans l'ordre de l'adoration reste quelque chose qui atteint le Dieu caché, qui atteint une source que je n'expérimente pas directement. Et cet amour, je l'expérimente. Il est plus fort que tout autre amour. Et il est caché. Il est souterrain. Et donc, il demande un certain exercice avant d'être limpide. Avant d'être ce qu'il demande d'être comme amour premier fondamental. Il me fait sentir de moi. Tout en faisant sortir de moi de cette manière-là, c'est m'intérioriser de la manière la plus forte qui soit. Si déjà l'amour d'amitié me permet de sortir de moi et de m'intérioriser, cet amour religieux le permet d'une façon encore beaucoup plus forte, puisque je rejoins la source de mon être, de mon esprit. En rejoignant la source de mon esprit, je suis plus intériorisé que jamais. J'ai la possibilité, grâce à cet amour, de rejoindre l'absolu. Cet amour spirituel de l'adoration, qui est impliqué dans l'adoration, me permet de rejoindre quelque chose immuable, qui ne change pas. Et c'est peut-être à cause de cela que on ne veut pas le regarder dans un climat de culture où on veut que l'homme soit le maître de tout. Reconnaître l'existence de cet amour tel qu'il est empêche de considérer que l'homme est le maître de tout. Ce qui est contraire à l'axiome capital de la laïcité. Donc, comprenons bien ce premier moment très très important pour nous au point de vue philosophique. Réfléchissons sur tous les obstacles que, de fait, les personnes d'aujourd'hui rencontrent pour reconnaître chez certains êtres cette capacité étonnante.